Versets 1 à 3. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Voyez-vous, la foi, là, est définie de manière très claire comme la possession des réalités invisibles, de toutes les réalités. La foi, elle embrasse toutes les connaissances, qu'elles soient visibles, invisibles. C'est la puissance de la foi. Alors que tout ce qui concerne notre intelligence, etc., peut embrasser beaucoup de choses, mais pas le monde invisible, ou tout au moins s'il le fait, il le fait non pas de manière juste, et on sait ce que ça peut produire. Et si on passe au verset 39 et 40, qui est la fin de ce chapitre sur la foi, où il y a l'énumération de tous ceux qui ont exercé la foi, et nous en faisons partie. Il dit, tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi qui l'amène à la perfection. Seigneur, nous te prions pour que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs et accomplir l'œuvre, Seigneur, de grâce que nous avons tous besoin pour continuer à marcher, Seigneur, dans la fidélité à toi, Père. Te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, alors que je suis en train moi-même d'étudier le sujet des réveils, hein, pour lequel j'ai placé là-bas la frise de Luc Maroni, qui a travaillé là-dessus, pour nous laisser les principaux événements des réveils qui remontent donc au 15e siècle, à partir de 1400, vous voyez. Et en travaillant ces réveils, moi-même, j'apprends beaucoup de choses, que d'ailleurs je prépare aussi pour l'université d'été. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez donc venir à ces deux jours que j'intitule « Ensemble vers un nouveau réveil ». Hein ? On veut nous faire partie. Il y en a qui veulent faire partie du réveil ? Alléluia. Voilà, donc c'est pour vous. Et en travaillant ce sujet du réveil, je m'aperçois que, en fait, c'est pas du tout mystérieux, le réveil. Il y a des lois, il y a des règles, il y a des constantes qui sortent des réveils. Et ça, je voudrais vous le partager pour nous encourager à savoir que nous sommes dans un temps, non pas, voilà, qui est en dehors du temps. Nous faisons partie de l'ensemble de toute cette nuée de témoins. Nous en faisons partie. Alors dis-le à ton voisin. Tu fais partie de la nuée de témoins de la foi. Voilà. Et à ce titre-là, nous faisons partie de la parole de Dieu dans laquelle nous nous inscrivons. Et c'est ça que je voudrais que vous compreniez, parce que, en fait, même si nous ne vivons pas des choses que nous aimerions vivre, vous voyez, on est toujours un peu dans l'idéal, dans le projet, on est toujours dans du rêve, hein, quelque part, voilà, on est dans du rêve. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on puisse vivre dans la réalité, pas dans le rêve. Il y a des chrétiens qui vivent toute leur vie dans des rêves, au lieu de vivre dans des réalités. Et la réalité, c'est du rêve. Mais c'est le rêve de Dieu. Parce que notre rêve, souvent, c'est le rêve à nous. Vous voyez ? Il y a des chrétiens qui vivent toute leur vie dans des rêves et qui ne vivent rien que des rêves. Vous voulez ça ? Vous voulez une réalité ? Moi, je préfère la réalité. Mais la réalité, c'est le rêve de Dieu pour nous. Et pour entrer dans des réalités, il faut quelque part s'accrocher à des choses réelles, pas des choses fictives. Et moi, c'est ma passion, c'est de vivre dans la réalité, et je voudrais vous transmettre ces réalités. Et ce matin, je vais vous donner un petit clin d'œil de cette réalité que nous vivons aujourd'hui, et pour laquelle nous n'avons pas besoin de rêver, puisque Dieu rêve pour nous, et que nous voudrions vivre aujourd'hui, dans un temps extraordinaire. Parce que si vous écoutez, et vous le faites, comme moi aussi, les médias, eh bien, vous allez avoir la vision du monde. Vous allez avoir l'interprétation du monde. Vous allez avoir ce que pensent les journalistes, etc., etc. Mais est-ce que vous voulez savoir ce que pense Dieu pour nous aujourd'hui ? Moi, je préfère ça. Ça, c'est la réalité. Le reste, c'est ce que pensent les gens, ce que pensent les journalistes, ce que pense le monde, ce que pensent les médias, ce que pensent... voilà. Et moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Et je voudrais donc, au travers de ces réveils qui nous parlent, voyez-vous, c'est des réveils protestants, hein, puisqu'il y en a une qui manque, c'est la réforme catholique, qui existe aussi, hein, puisque dans le XVIe siècle, il y a eu ce qu'on appelle la contre-réforme, et l'Église catholique s'est réformée aussi, a écrit des textes, a écrit même la justification par la foi, c'est écrit dans leur... donc ils ont bien été réformés également, hein, sauf qu'ils n'ont pas tout réformé, mais ils ont réformé. Mais là aussi, ils n'ont pas tout réformé, hein, les protestants n'ont pas tout réformé. Il a fallu d'autres réveils, qui réforme d'autres choses. Et nous, on est toujours dans des réformes. Parce que tant que nous ne serons pas avec le Seigneur, nous ne serons pas dans la pleine réalité. Donc, nous ne sommes pas parvenus à la perfection. Mais nous marchons vers la perfection que nous connaîtrons quand Christ va revenir établir son règne sur la terre. Donc, il faut d'une part relativiser notre connaissance, notre vérité, hein, c'est pas une vérité évangélique à 100%, hein, mais il y a une progression et des réveils successifs. Et je me suis aperçu qu'en fait, il y a trois grands réveils de réforme de l'Église. Hein, c'est celle qui a eu lieu au XVIe siècle, hein, qui a réformé la foi dans la justification. Nous sommes justifiés non par les œuvres, mais par la foi. Ça, c'est un fondement de réforme protestante qui, comme je vous le dis, a déteint sur les catholiques, puisqu'ils ont accepté la même chose, justifiés par la foi. D'ailleurs, un prêtre catholique qu'on a invité ici, qui a prêché, Michel Lacot, il a prêché sur la justification par la foi, et ses paroissiens, plusieurs étaient là, ils étaient un peu scotchés, il a dit oui, c'est aussi notre conviction. Ça, c'est la première réforme. La deuxième réforme a eu lieu deux siècles après, un siècle et demi, deux siècles après, 18e siècle, sur la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et la troisième réforme qui a eu lieu, c'est le pentecôtisme charismatique, les dons de l'Esprit, la puissance de l'Esprit pour l'évangélisation, pour le retour du Seigneur, pour lequel que nous attendons. Nous sommes dans le 21e siècle et le Seigneur continue à réveiller son Église. Donc ces trois réformes, ces trois réveils peuvent nous parler, et je voudrais que vous compreniez dans quelle situation nous sommes aujourd'hui par rapport à ça. Je rappelle que la réforme protestante était une réaction tout d'abord aux excès de l'Église catholique à l'époque, mais vous savez que c'est l'Église chrétienne de ce temps-là qui a nettement dérivé par des excès de tous ordres, qui était vraiment répréhensible à tous égards. Et cette réforme n'a pas commencé au XVIe siècle, elle a commencé au XVe siècle. Au XVe siècle, il y a des noms qui apparaissent ici, comme les Vaudois, hein, dans le pays du Vaudois qui est autour de Grenoble, par là, etc. Pierre Valdo, à Lyon aussi, qui s'occupait des pauvres, etc., qui a vraiment créé cette mouvance de l'esprit dans les Alpes. Et surtout Jean Hus, qui était un Luther avant l'heure. D'ailleurs, Luther écrira dans ses lettres qu'en fait, il a découvert qu'il était hussite, qu'il a accepté toutes les thèses de Jean Hus. Il y en a qui connaissent Jean Hus ? Alors, je vous encourage à lire un petit peu certains revivalistes de ce genre, et vous allez découvrir que notre foi n'est pas du tout originale. C'est des choses que nous, on croit, qui ont fait des siècles et des siècles, qui croient la même chose, et une doctrine très forte de la foi, de la piété, etc. Et Jean Hus, qui vivait en Tchécoslovaquie, à Prague, eh bien, il s'est élevé contre, effectivement, les mêmes choses que Luther, mais lui, il a terminé sur un bûcher parce qu'il était piégé à Constance lors d'un concile, et il a terminé sur un bûcher. Mais ses idées ont commencé à faire son chemin, puisque même Luther a fait les mêmes découvertes et a pu, lui, être protégé à ce moment-là par les politiques de l'époque, ce qui n'a pas été le cas de Jean Hus, pour qu'il ne termine pas de la même façon. Dans cette réforme, on voit que ce qui a commencé à pousser la réforme, c'est la prière. C'est la prière. Jean Hus, les Vaudois, John Wycliffe en Angleterre, toutes ces pré-réformateurs font partie d'une vague. Comme je vous l'ai expliqué, ça c'est, je suis pas tout seul. Tout le monde prend un petit peu cette idée de la vague comme analogie avec un réveil. C'est intéressant parce que on peut, dans cette analogie, imaginer des choses qui sont bibliques et qui permettent de le comprendre. Dans une vague, vous avez de l'eau, d'accord, avec un fond, et pour créer une vague, qu'est-ce qu'il faut ? Pardon ? Donc il faut du vent. Donc il y a un fond ici, il y a de l'eau, la mer, et il faut du vent. Voilà. Et comment se crée la vague ? Quel est le principe ? Oh, je vous demande pas la formule mathématique, mais je l'ai regardé, c'est très compliqué. Mais bon, tout se fait en mathématiques. Après, ce qui est mathématique, ça permet de simuler les principes physiques et de les calculer, de les prévoir, etc. C'est la science. Mais comment est-ce que se fabrique une vague avec le vent et de l'eau et un fond ? Non, vous n'avez jamais réfléchi à ça. Moi, je suis très curieux, j'aime bien savoir comment ça marche. Il y a une idée là, mais c'est pas tout à fait ça. Non, c'est simplement le fait qu'il y a une énergie. Vous savez que dans le vent, il y a de l'énergie. Vous avez déjà remarqué qu'on utilise les éoliennes pour l'énergie. Voilà. Donc le vent, c'est l'énergie. Là, vous avez déjà un élément qui vous ramène au Saint-Esprit. Dynamos. C'est une dynamos. Dynamo. Permet de faire de l'énergie pour votre voiture. Chacun a une dynamo. Et non, il ne pourrait pas rouler. Surtout pas la nuit. Donc il y a une énergie. Et cette énergie, donc, on la retrouve avec le Saint-Esprit. Vous l'avez là-haut, qui est en jaune, là. Et ça, c'est déjà la première analogie du réveil. Il faut une énergie. Et dans le réveil, c'est l'énergie de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui agit. Alors, ça va? C'est pas trop compliqué, là, pour l'instant? C'est des maths votre portée. Par contre, en face, il y a de l'eau. Et cette eau, elle va être énergisée. Donc il y a un petit, il y a une surface de frottement, là. Et l'eau va prendre l'énergie du vent pour monter. Parce que le vent pousse l'eau, mais toute la masse ici, elle résiste. Et une autre résistance, bien sûr, c'est le fond de l'eau, hein, qui lui résiste dans l'autre sens. Et donc l'eau monte. Ok ? Mais elle monte jusqu'à un certain point. Vous avez déjà vu des vagues qui montent jusqu'au ciel à 10 000 mètres d'altitude ? Il y en a qui ont vu ça ? À les tsunamis, ça monte très haut, hein, mais pas à 10 000 mètres. Et pourquoi ça monte pas si haut ? C'est une raison. Pardon ? Ah, très bien. Très bien. Premier élève de la classe. Il sait que la gravité existe. Je vais vous démontrer la gravité. Et ça marche à tous les coups. Pourquoi ? Parce que c'est une loi, la gravité. Voilà. Donc, la gravité, elle existe pour l'eau aussi. Ce qui fait que, à un moment donné, il y a une force qui descend. Hein ? Et donc, il y a une limite, là. Il y a une limite. Entre l'énergie, si l'énergie est plus grande, s'il y a un tsunami, c'est encore plus grand. Donc, ça monte plus haut. Voilà. Donc, suivant l'énergie, ça monte. Mais à un moment donné, il y a une limite. Parce que il y a la gravité qui descend vers le bas. Okay. Et la vague, hop, elle s'arrête. Elle s'arrête parce que, voilà, l'eau va descendre. Okay. Et donc, elle va descendre. Et ça va de nouveau se stabiliser. Cette force qui tire vers le bas, spirituellement, c'est quoi ? Si on revient au réveil, pour l'analogie entre la vague et le réveil. Bien. Il y a la chair. Hein ? Spirituellement, c'est la chair, mais il n'y a pas que la chair. Le monde, très bien. Et, pardon ? Et le diable, oui, l'ennemi, le diable et toute sa clique, les démons, etc. Suivant la force de ces trois-là, hein, suivant notre sensibilité à ces trois-là, notre chair, si elle est forte, si les démons en nous sont forts, parce qu'on n'a pas passé par le TQP, libération nécessaire spirituellement, et si l'ennemi est très fort, pour différentes raisons, je rentre pas dans le combat spirituel, c'est encore un autre domaine, eh bien, cette vague-là va s'arrêter plus ou moins rapidement. Donc le réveil va dépendre de tout ça, plus ou moins rapidement. Et le plus grave là-dedans, enfin sur le plan spirituel, c'est que les surfeurs, eux, ils savent que quand ils arrivent là, ils suivent la vague, mais ils restent pas là, parce que sinon ils vont tomber avec. Et des fois, on les voit tomber, bon, ils se relèvent. Donc, ce qu'il faut pas, c'est rester à la fin de la vague. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pardon ? Faut rester en l'air. Alors, tu fais de la lévitation ? Bah, le surfeur, effectivement, il suit la vague parce qu'en fait, la vague, en plus, elle est tridimensionnelle. Donc, en fait, il suit dans le sens latéral. Donc, ça, c'est pour du sport. Mais pour le chrétien, en fait, il faut pas rester dans la fin de la vague. Parce qu'à partir de là, vous voyez, si je tire un trait là, tout ça, c'est une masse qui retombe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur le plan? Quand on analyse les réveils, quand on regarde les réveils, comme j'ai fait, il y a une explication spirituelle à ça. Pardon ? Ouais. Bien, Charles. Tu as toutes les réponses justes aujourd'hui. voilà, alors je vais le dire un peu autrement, mais c'est ça. C'est que, vous voyez, quand on est dans un réveil, okay, on est porté, puisque c'est le vent qui est l'origine du réveil, c'est le Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu, c'est pas nous. Okay. Mais il y a toujours une origine, et on le verra tout à l'heure pour la prochaine vague, parce qu'après il y a une autre vague qui redémarre. Hein, voilà. L'origine, il y a une origine qui vient de nous. C'est que nous devons nous prêter à ce réveil. Sur le plan spirituel, ben sur le plan physique, bon, la vague, c'est inerte, hein, il n'y a pas de, la vague, il n'y a pas d'esprit dans la vague, hein, il n'y a pas d'intelligence dans la vague, il se laisse porter. Mais dans le spirituel, nous, nous sommes soit sensibles à ce que le vent nous porte, mais nous pouvons résister au Saint-Esprit. Donc notre attitude est très importante dans le réveil. Nous pouvons refuser un réveil. Nous pouvons résister un réveil. Nous pouvons, nous, rester volontairement dans la chair, dans le monde, et sensibles à l'ennemi pour ne pas être sensibles au Saint-Esprit. C'est là que, bien sûr, entre la vague physique et nous, ça change. Mais il y a donc mais le problème, c'est que quand on est porté par un réveil qui vient du Saint-Esprit, qui est conduit par le Saint-Esprit, qui est énergisé par le Saint-Esprit, on peut se griser de ce réveil et nous l'imputer à nous. Et c'est ce qui se passe en général, parce que l'ennemi est très malin pour nous dire « Ah, oh, tu es un beau chrétien, tu es dans le réveil, tu es dans ceci, cela. » Et ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'en fait, quand on est là, après le réveil, hein, etc., eh bien, on va persécuter les chrétiens qui commencent le prochain réveil. Ça, c'est une constante. Tous les chrétiens, depuis 2000 ans, c'est comme ça que ça se passe. Les chrétiens qui sont dans le réveil et qui comptent sur leur chair, qui comptent continuer, ils vont persécuter les prochains qui démarrent un nouveau réveil. Et eux, ils tombent et ils ne se rendent pas compte. Et eux, ils se plantent et ils ne se rendent pas compte. Vous voyez, c'est subtil. C'est pour ça qu'il faut être dans une église où on se soutient les uns les autres pour ne pas se gargariser, pour ne pas s'imaginer un certain nombre de choses qui n'existent pas, qui sont de l'écume. Parce qu'ici, il y a de l'écume. Je ne sais pas si vous avez vu, à la fin, il y a de l'écume. Hein, parce que il y a l'oxygène de l'air hein, qui rentre dedans, hein, qui fait de l'écume. Hein, mais c'est que de l'écume. Il n'y a plus rien. Et c'est ça qui est dramatique. Et ça se passe dans tous les réveils. Si j'ai regardé, tous les réveils, c'est comme ça. Il y en a d'ailleurs qui se terminent très rapidement. Les réveils dont je vous parle ici, ils durent 100 ans, parce que c'est des réveils de réforme. Ici, ça a duré à peu près, entre là et là, la vague, une centaine d'années. Entre là et là, une centaine d'années. Entre là et là, une centaine d'années. Mais il y en a qui durent 3 ans. Le réveil du Pays de Galles, il a duré 3 ans. C'est un petit réveil, quand même très important, parce qu'il a révolutionné l'Angleterre. Il a duré 3 ans. Et Van Roberts, il n'a pas duré plus de 3 ans. Parce qu'il a beaucoup pris sur la chair. Il s'est épuisé, il n'a pratiquement jamais dormi, ou très peu, voilà. Vous voyez, il y a une certaine sagesse aussi, etc. Parce que la chair, elle est faible. Non ? La chair est faible. Jésus l'a dit à ses disciples, il a dit, la chair est faible, vous ne pouvez même pas prier 1 heure avec moi. Vous êtes endormi là. La chair est faible. Voilà, donc déjà ça c'est un premier renseignement sur le réveil. C'est que faire attention que nous ne soyons pas dans cette queue de réveil où nous nous gargarisons, mais que nous prenions la charrette suivante, la vague suivante. Allô ? Vous êtes avec moi ? Alors appliquons-le au réveil qu'on a sur la frise, là, et nous allons voir certaines choses qui, justement, vérifient ce phénomène de réveil. Donc, peut-être avant d'aller sur la frise, je vous la synthétise ici. Il y a donc une première vague, une deuxième vague. Je vais y arriver. Troisième vague, voilà. Donc là, c'est 14e... voilà, pardon. 15e et 16e siècle, 17e et 18e siècle, et 19e et 20e siècle. Et nous, nous sommes ici. Mais le problème, c'est que la vague, elle est terminée. La vague est terminée depuis 1990. Pourquoi 1990 ? Parce que cette vague-là, c'est la découverte des dons de l'esprit, ce qu'on appelle le pentecôtisme ou les charismatismes. La différence entre pentecôtiste et charismatique, c'est quoi, votre avis? Vous avez déjà réfléchi? On est dans un mouvement ou pentecôtiste ou charismatique ou les deux ou pas? RNC, il est dans quoi? Voilà. Bon, souvent les identités, les évangéliques, ils savent pas qui ils sont. Mais c'est important de le savoir. Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Il y a des choses justes, hein, mais vous n'avez pas réfléchi à votre identité. Il y en a qui sont français ici, qui connaissent leur identité. Ah, c'est facile, mais chrétienne, est-ce qu'on la connaît, l'identité chrétienne, par rapport à ces réveils? Ce qui est le réveil, c'est la puissance du Saint-Esprit. Moi, j'aime bien être dans la puissance du Saint-Esprit, non pas dans ma puissance. Donc j'aime bien savoir qui je suis. Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans un réveil ou est-ce que je suis dans un endormissement du réveil qui est pire que le reste, parce que je vais persécuter les prochains. Et je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça, c'est une loi à laquelle je ne peux pas m'échapper. Tiens Charles, quoi qu'il y ait toujours les bonnes questions ce matin, tu dois avoir la bonne question entre le pentecôtiste et le charismatique, ou le charismatisme et le pentecôtisme. Non ? Tu jettes l'éponge. Le pentecôtisme, c'est tout simple, c'est la Pentecôte. Oui, souvent, les noms sont révélateurs simplement de leur origine. La Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Saint-Esprit qui est venu, qui a fondé l'Église, qui est tombé sur les apôtres, enfin les apôtres et tous ceux qui étaient dans la chambre haute, et qui s'est répandu et qui a créé, fondé l'Église. En 1900-1904, par là, il s'est passé la même chose dans pas mal d'endroits en même temps, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, etc. Et en fait, comme les gens ont commencé à parler en langue, à prier comme à la Pentecôte, ils ont pris le nom de pentecôtistes. Okay. Et c'est donc le don de l'Esprit qui donne la puissance pour répandre l'évangile dans le monde entier. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est les mouvements pentecôtistes qui sont les plus importants en termes de croissance de l'Église dans le monde entier. Mais en 1900, ça n'a touché qu'un certain nombre de chrétiens, et en particulier évangéliques, qui sont dans le mouvement de sainteté, etc. Bon, là, il faut comprendre les réveils du 19e siècle. Les charismatiques, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est début du 1900, début du siècle dernier, donc 1900, par là, pour simplifier les choses. Et le mouvement charismatique, il est venu quand? Je vous assomme, là, ou... Pardon? Vous n'avez pas les réponses. Pardon? Début du 20e. Non, c'est 1960. C'est assez précis. Hein. 1960. 60, 59, 62, etc. En 1960, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la même chose qu'au début du siècle, Pentecôte, don du Saint-Esprit, etc. Sauf que c'est tombé sur toutes les églises, pas que les évangéliques. C'est tombé sur les protestants, luthériens, qui ont dit d'ailleurs, au temps des nazis, que c'est diabolique. Au temps des nazis, ont écrit une lettre en Allemagne en disant, chrétien pentecôtiste, c'est diabolique, c'est satanique. Et vous avez vu un peu la malédiction qui est retombée sur l'Allemagne. Il y a toujours des raisons hein, dans les positions qu'on prend par rapport à l'ennemi. En 1960, c'est tombé sur les protestants classiques, sur les catholiques, sur les orthodoxes, sur toutes les dénominations que vous pouvez imaginer sur la planète. C'est ça la différence. Vous voyez le Saint-Esprit, comment il agit? Ça, c'est souverain. C'est Dieu qui l'a décidé comme ça. Donc les charismatiques, c'est simplement des pentecôtistes, c'est la même chose, sauf que c'est des noms qui ont été adoptés. Hein. Charismatique, c'est pour don de l'esprit, pentecôtiste c'est le don aussi, sauf que le nom était emprunté à la Pentecôte, c'est tout. Donc c'est un réveil de réformation de la réception de tous les dons de l'Esprit que Dieu accorde à son Église, à son peuple, qui ont toujours existé, mais pas sous la forme puissante de cette mouvance qui est sur toute la planète. Ça va ? Vous avez compris ? Donc, en fait, RNC, si vous voulez, c'est pentecôtiste charismatique, parce qu'en fait, on est ouvert aux deux. Et on y va aux protestants, on fait partie de la fédération protestante, parce qu'on reconnaît que le protestantisme, c'est un fondement important, justification par la foi, qui est une base. On est ouvert aussi aux méthodistes, qui sont ouverts à la sanctification, et on est ouvert aux réceptions de l'esprit. Et aussi, on reconnaît que Dieu est souverain, il a le droit de faire ce qu'il veut. Vous croyez que Dieu a le droit de faire ce qu'il veut ? Et qu'il peut baptiser aussi les catholiques de l'esprit. Mais les pentecôtistes à l'époque, 1960, ils disaient que les évangéliques qui croient ça, ils sont pas sataniques, ils disaient pas jusque-là, mais pas loin. De croire qu'un catholique peut baptiser de l'esprit, c'était pas possible, parce qu'il prie Marie, etc. Vous voyez ? Comme quoi, nous, dans la chair, on rajoute des choses comme si Dieu n'avait pas le droit de faire ce qu'il voulait. Vous voyez, la chair prend le dessus en permanence sur l'esprit. En permanence. C'est pour ça que le TQP, première leçon, dit que marcher par l'esprit. Et voilà. Marcher par l'esprit. C'est pas facile. Donc, pentecôtisme, charismatisme, pareil. La même réforme. La réforme de la réception de l'esprit pour marcher par l'esprit et non par la chair, pour s'appuyer sur la justification par la foi, nous sommes justifiés non par les œuvres, pour se sanctifier, pour devenir saint, donc il y a la justice, la sainteté et la puissance. Sauf que en 90, ben ça c'est mon point de vue, hein. Vous pouvez très bien ne pas le partager, mais si je vous le dis, c'est que moi j'y crois. Dans les années 90, ça s'est arrêté. La vague est retombée, a commencé à retomber. En 1974, il y a un théologien que je recommande, pas très très compliqué à lire, mais qui aujourd'hui est la base de tous les enseignements sur le Nouveau Testament, en particulier à Vaux-sur-Seine, la théologie de Ladd, George Eldon Ladd. George Eldon Ladd, il s'est retrouvé à l'université de théologie de Fuller Seminary, qui se trouve à Pasadena, en Californie, en haut de Los Angeles. Vous savez, Los Angeles, c'est une ville tentaculaire et qui a des régions. Donc, nord-est, ça s'appelle Pasadena, c'est une sorte de quartier. Et donc, à Pasadena, il y a un grand, grand séminaire de théologie où tout le monde de la planète essaie d'y aller. Voilà, les goths ont été là-bas pendant un an pour se former, etc. Et là, il y a eu un concours de circonstances où des théologiens se sont rencontrés, dont George Eldon Ladd, Peter Wagner, et John Wimber, entre autres, qui parlait sur la croissance de l'Église. Et George Eldon Ladd, en 1974, a sorti un livre qui est la base du royaume de Dieu. Théologie du royaume de Dieu. Ça, c'est quelque chose de nouveau, encore que c'est très très ancien. Comme vous lisez la Bible, partout, c'est parler du royaume de Dieu. Pourquoi on ne l'a pas découvert avant ? Étonnant. Ouais, c'était écrit. Comme quoi, parfois, il y a des choses qui sont écrites qu'on ne voit pas. L'évangile de Matthieu parle du royaume des cieux, c'est pareil, parce qu'il utilise cieux pour pas choquer les juifs, parce que c'était un évangile qui est écrit pour les juifs, qui n'ont pas le droit de nommer Dieu, ni d'écrire, ni quoi que ce soit. Donc cieux, c'est pareil. Royaume de Dieu. C'est marqué partout, royaume de Dieu. Jésus est venu, il a commencé à prêcher le royaume de Dieu. Jean-Baptiste est venu, il a prêché le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Donc ça, c'est la base aussi d'RNC. Et Florence vous en parlera beaucoup plus savamment que moi, parce qu'il a fait l'université d'été, qui reposait en grande partie sur théologie du royaume de Dieu. Et donc, ça c'est un pavé théologique, de la même façon que le pavé de Luther, dans la première réforme, première vague du réveil, c'était la justification par la foi, les 95 thèses de Luther, qui ont été placardées sur toutes les églises de l'époque, catholique de l'époque, et pour lesquels en 2017, toute l'année, les médias vont retranscrire tout ce que la Fédération protestante va faire pour célébrer les 500 ans de la réforme protestante sur la justification par la foi. Donc ça, c'est un pavé théologique, un pierre de fondement de notre croyance. Ici, au XVIIIe siècle, c'était la sanctification. La sanctification. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de controverses, y compris chez les évangéliques, entre ceux qui sont pour la sanctification, ceux qui sont contre la sanctification. Vous voyez comme quoi le problème n'est pas réglé. On en parlera à l'université d'été plus longuement là-dessus. Sanctification, et celui qui l'a écrit quelque part, c'est John Wesley. Donc là, dans cette vague-là, le pavé principal du fondement théologique, c'est John Wesley qui a écrit sur la sanctification. Et qui a préparé la suite, c'est la réception de la puissance de l'Esprit, du Saint-Esprit, qui nous permet d'être des témoins de l'Évangile sur la terre entière. Mais en 90, 93 exactement, les choses se sont dégradées et aujourd'hui c'est une catastrophe, cette vague-là. On l'a vu à Bethel, on l'a vu ailleurs, encore Van Gim disait au Havre, il y a ce qu'ils appellent la Last Reformation, qui est aussi de la même... C'est de l'écume, mais c'est grave, c'est une écume très grave. Ceux qui suivent là-dedans, ils vont être emportés par la chair, le monde et le diable. Mais il y a une autre vague qui démarre, et j'aimerais que moi je veux prendre cette vague, et je vous propose de la prendre avec moi. Et ce sera l'occasion de l'université d'été. C'est la vague du Seigneur qui prépare son épouse pour son retour. Et ce sont les Global Gathering, etc., qui ont pris cette vague et qui n'est pas du tout une vague de domination sur le monde, mais qui est une vague d'unité, d'amour pour préparer le retour du Seigneur. Et vous voyez, les fruits sont différents. Les fruits, c'est la réconciliation. Les fruits, c'est le changement des familles. Le fruit, c'est que ce soit les familles locales, mais que ce soit les familles internationales. On voit des choses extraordinaires on a vu des choses extraordinaires entre les Chinois, les Japonais, qui étaient là, les Coréens, que sais-je encore, Israël, pardon, les Égyptiens, les Arabes, les Juifs. Vous voyez, ça, c'est le fruit de l'esprit. Je peux vous garantir. On l'a vu. On l'a senti, on était transformé. Mais le reste, c'est de l'écume. Mais j'en parlerai pas plus, je n'aime pas trop m'appuyer sur les choses négatives, mais il y a énormément de choses négatives ici, donc la prochaine vague. C'est ce que j'aimerais vous enseigner à l'université d'été, pour prendre cette vague-là, que nous avons prise, et pour laquelle Dieu nous appelle, et c'est un privilège qu'il nous appelle. John Lodess, il ne fait pas dans la demi-mesure, il a bien reçu que cette Église est appelée à vivre cela. Donc, je vous le transmets. Mais à chaque fois, il y a des origines. Le début de la vague. Et à votre avis, c'est quoi ? Une des origines, mais qui est importante, qui est capitale. Pardon ? La prière. Rémi. Waouh, tu seras décoré à la fin du culte. La prière. Non, mais c'est vrai. Ça s'appelle autrement dans les mouvements de prière, ça s'appelle les piétistes, les mouvements piétistes qui s'appuient sur la prière. Voyez-vous, quand on s'appuie sur soi, quand on est en haut de la vague, on a l'impression d'être énergisé. Les gens qui sont sur la vague et qui font du surf, ils le savent. Ils essaient d'avoir des concours, rester le plus longtemps possible, d'utiliser l'énergie de la vague. Mais ça grise. Et nous ne sommes pas capables de porter un grisement dans la chair. Dans l'esprit, oui, pas dans la chair. Nous sommes tous de la chair. Et c'est ça qui est dangereux quand on est là-haut, hein, c'est que quand on croit que ça continue et qu'on ne voit pas qu'on tombe, ça fait mal. Mais ça peut être très grave. J'ai vu les serviteurs de Dieu être emportés dans une catastrophe que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne préfère pas en parler. Et j'en ai vu beaucoup. Parce qu'ils pensaient être sur la vague et en fait, ils étaient en train de chuter. Mais si nous restons dans la prière, on n'a pas beaucoup de danger. Et c'est pour ça que une église, sa piété se voit à la réunion de prière. Et c'est pour ça que, tant que nous, Michel et moi, qui serons là, on n'arrêtera pas de garder une réunion de prière. Ça ne veut pas dire que chacun peut prier chez soi, c'est très bien. Mais la réunion de prière centrale est un élément qui empêche à l'ennemi d'agir comme il veut. Il agira toujours. Et c'est pour ça qu'on veut une maison de prière. Allô ? Je me fais comprendre ? C'est du combat spirituel et c'est le gage de rester dans un réveil ou tout au moins de le démarrer correctement. Vous prenez Wesley. Hier soir, je suis tombé hier soir sur cet article absolument incroyable qui, en fait, Wesley, on parle de Wesley. Mais avant Wesley, ça a été préparé. Et celle qui a préparé le mouvement de sanctification, c'est sa mère. Si vous voyez sa mère, j'ai dit à Michel, il faut que tu partages ça avec les réunions de dames, vous êtes bluffé. La mère s'appelait Suzanne Wesley. Elle venait d'une famille de 25 enfants. Ils étaient 25, ça a été vérifié. Et elle a eu 19 enfants. Il y en a qui font mieux, là. Ah, il y en a qui s'y mettent, mais... Hein, ça présente un tableau, déjà. OK, voilà. Est-ce qu'il y a des femmes comme ça qui savent relever ce défi? OK. Susanna avait des idées bien arrêtées sur l'éducation de ses enfants. Et c'est là qu'elle a préparé le réveil. Ça se prépare au réveil. C'est pas magique. C'est magique dans le sens où le Saint-Esprit est magique. Dans le sens où c'est la puissance. Mais il faut qu'il trouve du terrain chez nous, qu'il soit prêt à porter le réveil. Et Suzanne Wesley a porté le réveil. Et son fils, pas que son fils d'ailleurs, tous ses fils, étaient engagés dans le réveil. Alors voilà ce qu'elle a enseigné à ses enfants. Notez bien. Donc je ne pense pas que vous pourrez le faire, mais c'est un modèle. On n'a jamais ce modèle. Pourtant, ce n'est pas Jésus. Voilà. Un, les enfants seront enseignés à prier dès qu'ils pourront parler. Il a compris l'importance de la prière. Ils seront enseignés à prier dès qu'ils pourront parler. Deuxièmement, les enfants ne recevront pas ce qu'ils demandent en criant, mais seulement quand ils demanderont poliment. Ça a l'air de rien, mais c'est une éducation. Troisièmement, pour prévenir le mensonge, les enfants ne seront pas punis pour ce qu'ils avouent et dont ils se repentent. Vous allez y penser. La punition, c'est pas automatique. C'est pas parce que je suis énervé contre un enfant que je lui donne la fessée. Mais une punition qui est juste. Ça, c'est le cœur de Dieu. Si on punit quand même, la discipline existe, mais elle se fait pas n'importe comment. Quatrièmement, les enfants ne seront pas punis deux fois pour la même faute. Il faut le trouver, ça. Quatrièmement, tout bon comportement sera félicité et récompensé. C'est au XVIIIe siècle. C'est pas les méthodes actuelles où on a réfléchi psychologiquement, machin, patati, patati. Ça vient de la Bible, ça. Sixièmement, on fera l'éloge de toute tentative de faire plaisir, même si elle est mal exécutée. Je répète, on fera l'éloge de toute tentative de faire plaisir, même si elle est mal exécutée. C'est-à-dire que c'est l'intention qui est là, de faire plaisir à l'enfant. Les droits de propriété seront préservés dans les moindres détails. Si on respecte l'enfant. On lui apprend la dignité. C'est pas mal, le XVIIIe siècle. Les psychologues, aujourd'hui, n'ont pas appris grand-chose. Il l'a appris dans la Bible. Et dernièrement, les enfants seront enseignés à craindre le Seigneur. On remarque que ces principes étaient très libéraux à l'époque, ils étaient très décalés par rapport à ce qui se faisait, et pas d'école avant 5 ans. Mais à partir de 5 ans, 6 heures de leçons par jour, y compris pour les filles, ce qui n'était pas courant au XVIIe siècle. Le lever à 5 heures du matin. précision nécessaire pour certains, et toute journée était méthodiquement organisée. Avec ses enfants, elle en avait 19. Elle a malheureusement perdu la moitié, je crois. Elle a passé une heure par jour avec chaque enfant tous les jours. Vous voyez le modèle ? Vous voyez que le réveil, hein ? Et sachant que le presbytère, parce que son mari était pasteur, hein, Samuel Wesley, son presbytère était brûlé plusieurs fois. C'est-à-dire qu'elle devait déménager, enfin c'était une des catastrophes, hein, à l'époque c'était pas Vital de Rose. Hein. Samuel, le père, était parti, elle s'occupait aussi de faire des réunions le dimanche soir, où il y avait parfois 200 personnes qui venaient l'écouter, parce qu'elle prenait les sermons de son mari qui était à Londres et qui les donnait. Et voilà, on a toute la publication de tout ça, etc., etc. Bon, c'est juste un aperçu d'une femme de Dieu qui a donné beaucoup d'amour aux enfants. L'amour, on en parlait ce matin. Les enfants ont été reconnaissants de cet amour de leur mère parce qu'elle leur a donné l'amour de Dieu en premier. Et ça, c'était longtemps avant le sommet du réveil de John Wesley et Charles, qui était son frère, hein, qui travaillait ensemble avec Whitfield. Et ils ont commencé à Oxford à créer justement ce club qui s'appelle le Club Saint, le club des gens qui, dans l'université, établissaient ces normes qu'ils ont apprises de leur mère. Et c'est pas étonnant que ce mouvement a impacté toute l'Église évangélique. L'Église évangélique a commencé là. L'Église protestante, l'Église évangélique, l'Église charismatique, évangélique, charismatique, si vous voulez, en gros. Les trois grands points. Je vais m'arrêter là. Je serai beaucoup plus détaillé dans l'université d'été où je vous donnerai des éléments concrets de tout cela avec un point très très important qui est le quadrilatère wesleyen qui ressemble au tétramorphe qu'il avait déjà mis au point pour expliquer comment on peut garder cette foi dans le Seigneur. Et le méthodisme vient de la méthode de la mère. Lui, il était très méthodique. Et ce méthodisme a complètement bouleversé le christianisme et rétabli des choses qui n'existaient pas avant. Et donc c'est le XVIIIe siècle qui a marqué ça, qui a permis tout le mouvement qui a suivi ensuite après au niveau du pentecôtisme et des charismatismes. Prions. Seigneur, nous te prions pour que tu nous donnes ces conditions, cette soif pour les conditions du réveil. Parce que Seigneur, nous savons que nous sommes dans un temps où tu continues à souffler, tu n'as pas arrêté, tu n'as pas soufflé plus ou moins, tu continues à souffler. Mais c'est nous qui n'apportons pas, Seigneur, les éléments suffisants pour être portés par ce réveil. Et nous te demandons de nous donner la soif de la prière, qui est un des éléments, des ingrédients, entre autres, de cette voilure que nous pouvons déployer et qui a été aussi le cas au Havre avec ces femmes qui ont prié, qui ont permis le réveil la Pentecôte en France. Seigneur, à chaque fois, c'est la prière. Et nous te prions que tu nous donnes soif de la prière. Non pas, Seigneur, une obligation de prier, mais un désir de prier. Et de prier en église, de prier ensemble, Seigneur, afin que nous puissions prier pour les perdus, que nous puissions prier, Seigneur, et porter, Seigneur, tous ceux qui nous entourent, et peut-être aussi des chrétiens qui sont mal parce qu'ils suivent des modes, et ils suivent des choses qui ne sont pas de toi, Seigneur, qui sont de la chair, du monde et du diable. Et Seigneur, nous voulons te demander ta grâce, dans ce temps que nous vivons, qui est extraordinaire dans un temps mais aussi catastrophique dans un autre. Mais Seigneur, avec toi, c'est extraordinaire. Et nous pouvons vivre ces choses, nous pouvons les mettre en pratique, nous pouvons avancer avec toi. Et nous te prions de nous donner cette faim et cette soif de toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Voilà, n'hésitez pas pendant ces vacances, hein, justement, de prendre certains livres de réveil pour que vous soyez édifiés. Parce que le réveil, c'est quelque chose comme j'essaie de vous le dire, qui vient de Dieu, qui s'inscrit dans l'histoire, bien sûr, dans des temps différents, mais les fondements sont les mêmes, et vous pouvez puiser dans ces sources de lecture des choses pour vous qui peuvent vous encourager, parce qu'il se passe la même chose, quels que soient les âges, quels que soient les temps, quelles que soient les situations. Amen. Oui, je pense juste à une chose. C'est qu'il y a quelques années, quand on a eu le combat spirituel ici et qu'un frère nous a aidé à en sortir, c'était Ricardo à l'époque, il a fait venir des Brésiliens, tout un quart, une cinquantaine de Brésiliens qui étaient venus du Brésil. Il dit, mais soyez pas découragés. Au Brésil, c'était comme chez vous en France, même pire. Hein, et d'un seul coup, le réveil a éclaté. Et là, ils savent plus où donner de la tête. Au Brésil, c'est leur réveil. Incroyable. Ils nous ont encouragés. Ils ont dit non. Voyez-vous, parce que ce que nous faisons, nous sommes dans une chaîne, mais nous sommes tellement individualisés, c'est que nous, nous voulons nous le réveil. Hein, les autres, non, mais on faisait partie du réveil. Vous voyez, c'est ça que nous avons oublié. Nous sommes une communauté, et l'absence de réaliser que nous sommes une communauté, chacun veut être pour lui, il veut être béni, chacun veut être béni, béni. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas le royaume de Dieu, ça. Okay. Ça, c'est la société de consommation qui vous dit, allez à Auchan et servez-vous dans le caddie. Voilà, vous êtes tout seul et vous remplissez votre caddie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas un caddie personnel. C'est l'église. C'est l'épouse du Seigneur. C'est pour ça que les Global Gathering nous amènent à considérer l'épouse qui est la seule réalité pour laquelle Jésus a donné sa vie. Amen. Amen. Voilà. Donc, que vous ayez des bonnes lectures durant ces vacances, je vous l'encourage.